Bah, bonjour à tout le monde, merci à tous d'être venus. C'est sûr que le fait d'être ici, c'est l'histoire d'une rencontre, il y a déjà quelques années. C'est une histoire de parole. Et voilà, pour nous, pour tout le groupe, c'est un bonheur d'être là ce soir. On va mettre tout ce qu'on a dans le sac, comme tous les soirs, hein, je dirais. Mais voilà quoi, c'est le début d'une boucle qui se boucle. J'espère qu'il y en aura d'autres. Mais bon, voilà, moi je suis très très content que la rencontre dans un club de Barcelone ait abouti à ça. Et voilà, on est là avec tout le groupe, on arrive de tourner. On repart d'ailleurs en tournée tout de suite. On repart au Portugal, on joue au Portugal, en Galice. Chez mon père la semaine prochaine, hein, enfin dans 3-4 jours.
J'ai invité ton père avec notre ami Jean Ortiz qui est là, mais il nous a parlé pour nous.
Je pense qu'il va. Non, il n'est pas là, mon père. C'est mon frère qui va venir. Il n'est pas là. Il prend un peu de vacances, ça va pas lui faire de mal. Parce qu'il n'en prend jamais.
Il a écrit beaucoup de textes sur l'humanité.
Oui, c'est vrai.
Il a écrit un joli roman sur l'humanité.
Ouais, c'est vrai. Il n'arrête pas, hein. Et il n'arrête pas de faire des trucs et il me déborde complètement le papa. Il n'arrête pas de faire des milliers de projets. C'est vrai. Ouais. Donc voilà, on en est là. Et si vous avez des questions à poser, moi je suis pas un grand parleur, mais si on pique un peu, j'arrive à causer. Donc je sais pas ce que. Un bâton rompu, on y va.
Dès que tu nous parles de son dernier album, là, qui sort le 3 septembre et qu'on a entendu, là, qui a l'air extrême, dans quel état d'esprit tu es pour le composer,
difficile. Parler d'état d'esprit sur l'album, c'est difficile parce qu'il a été enregistré sur tellement de moments différents que c'est plein d'états d'esprit différents, on va dire. Dans le cas des trois quarts des chansons, même à l'heure de les enregistrer, pour moi, c'était pas très clair, ça finirait sur un album non plus. Au moment de l'inspiration, ce qui importe, c'est la chanson en elle-même. Moi, dans ma manière de travailler, d'enregistrer, c'est assez rare que je pense album quand j'enregistre une chanson. C'est surtout le moment qui compte et l'instant présent, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une idée. Maintenant, j'ai un petit appareil où je peux enregistrer un peu n'importe où. Donc, ce qui est bien pour moi, c'est que je peux. Dès qu'une idée passe, je note 3-4 textes et la musique et l'idée de la musique est là, je peux enregistrer tout de suite et c'est ça qui est important pour moi dans ma manière de travailler. Peut-être que pour les gens c'est pas forcément très important, c'est que c'était enregistré ici ou là, mais pour moi c'est toujours bien de me rappeler à chaque fois que j'écoute la chanson, ça me fait quand même une petite carte postale du moment où la chanson est née, quoi. Et ça c'est une méthode qui fait du bien à moi-même, on va dire. Et voilà, donc. Alors, l'album, il a été écrit, j'ai enregistré à droite à gauche. La chanson la plus récente a été enregistrée dans une chambre d'hôtel à Portland, dans l'Oregon. La chanson la plus vieille a bien 20 ans.
C'est laquelle ?
Une qui s'appelle Bleeding Cloud, qu'on chantait déjà à l'époque de la Mano. Et qui. Mon chanteur, on avait dû enregistrer des maquettes d'ailleurs à l'époque. Et là, je la sors parce que à chaque fois que je sors un disque, c'est un petit comité d'amis, pas beaucoup, mais qui sont toujours déçus parce que je la sors pas celle-là. Pourquoi t'as pas sorti des lignes? Pourquoi t'as pas. Et donc là, moi j'ai décidé de la sortir pour qu'ils arrêtent de me poser la question.
Tu peux nous raconter la carte postale de Politique? Comment tu l'as fait?
Oh, celle-là, elle a déjà quelques. Elle a déjà. Le texte, là, le même. La version en elle-même, elle a quelques années. Ça remonte au tout début de Radio Bamba, je dirais, quand on était parti s'installer à Madrid. J'ai écrit la chanson à cette époque-là. On va parler de 96, 97. Je crois qu'on avait même maquetté une version à l'époque, oui. Et c'est né un peu de là. Après, bon, c'est le texte, je l'ai utilisé dans beaucoup de. Il a voyagé déjà, hein. On le retrouve sur le disque d'Amadou Mariam, on le retrouve sur des maquettes à droite à gauche de quartier qu'on fait, sur des petits CD un peu volatiles, on va dire. Et donc c'est une chanson qui a, c'est pas la première version qui soit sortie. Mais c'est un peu la version originale. Avec des cuivres du trompettiste qui joue avec nous à l'époque, Angelo Mancini, un Napolitain qui joue avec nous à Radio Bemba au tout début du groupe, on parle de 96, ça aurait pu très bien. Et ce que dit le texte, bon bah c'était valable il y a 10 ans, c'est malheureusement encore plus valable aujourd'hui. Donc c'est, pour moi en tout cas, c'est un texte qui est de plus en plus d'actualité de ce qui se passe. La politique elle tue quoi, ça fait beaucoup trop de dégâts. Dans le sens noble du mot politique, ça devrait être un métier qui est fait pour que tout le monde vive mieux ensemble. Les travaux pratiques c'est carrément autre chose. Mais bon, la chanson parle de ça, quoi, que la politique. La politique a besoin de vote, la politique a besoin de contrôler ton cerveau pour que tu votes pour un ou pour l'autre. La politique ment, la politique use les drogues, la politique use les armes, la politique use les tueurs à gages, la politique aime le sang. J'aime pas le mot politique quand il arrive. J'aime pas dire que je fais de la politique. C'est souvent les journalistes qui ont dit ça, mais moi le mot il a tellement été sali par les politiciens professionnels que c'est un mot que j'aime pas trop utiliser. Oui, bah, je crois qu'on a. On vit tous entourés de nos voisins, de des gens à qui il faut partager ce monde. Et je pense que le but du vieux, c'est d'essayer à pouvoir vivre le plus possible tous ensemble en bonne harmonie. Et comme est le monde aujourd'hui, je pense que l'urgence, c'est d'essayer de le plus possible de laisser un monde acceptable à nos enfants. Ce qui n'est pas. Si tu regardes aujourd'hui le monde avec lucidité, c'est assez inquiétant de savoir dans quel monde vivront nos enfants dans 20 ans, dans 30 ans, voire même dans 10 ans.
Mais est-ce que vous ne pensez pas que ce type de discours est quand même assez dangereux par rapport à ce que vous représentez en direction des jeunes? La politique tue. Qu'on dise la politique politicienne, la politique spectacle, la politique people, etc., c'est bien. Mais est-ce qu'au Venezuela, en Bolivie, en Équateur, au Brésil, elle tue la politique? Je crois qu'il faut faire attention à la politique, c'est cravingue, etc. Attention à ce type de discours, quoi. Parce que, voilà, donc c'est... Hein? Donc, parce qu'il y a des milliers de jeunes qui vous suivent, est-ce qu'il n'y a pas un danger de dérapage là quand on dit la politique? Quelle politique? La politique des politiciens, oui, d'accord. Mais la politique au sens noble, la politique peut libérer la preuve au Venezuela. Et on vote aussi au Venezuela. Et la politique, elle est dans les bidonvilles, etc. au Venezuela.
Alors, on peut en parler, on leur revient. Donc on va pouvoir en parler. Non, mais c'est intéressant. Moi, je dis ce que je pense. Je suis. Et que aujourd'hui, je ne crois pas qu'au Venezuela, ni au Brésil, ni nulle part, les problèmes de corruption soient réglés. On est en chemin. Il ne faut pas non plus. Je pense qu'il ne faut pas non plus être manichéen à dire il y a des bons politiciens et des mauvais politiciens. Tu me parles de l'exemple du Venezuela, il y a des choses formidables qui sont en train de se passer là-bas. Mais on ne peut pas non plus dire que c'est la panacée sur Terre. C'est une révolution qui est en route. Que personnellement je soutiens, et beaucoup de gens ne me comprennent pas pour ça. C'est peut-être des gens qui ne sont pas allés voir ce qui se passe là-bas. Il y a même d'ailleurs beaucoup de Vénézuéliens qui m'en veulent de soutenir ce qui se passe là-bas, parce que le pays est d'une certaine manière coupé en deux. Mais de donner un exemple Venezuela pour dire je vais me faire l'avocat du diable là, parce que. Mais de donner un exemple au Venezuela en train de dire que là-bas tout va bien pour d'une certaine manière nettoyer le mot politique, je pense pas que ce soit comme ça que ça se passe.
Non, mais j'ai pas dit ça, j'ai dit qu'on peut faire de la politique autrement.
Oui, mais il y a plein de gens qui essayent. Mais à niveau mondial, c'est quelle politique qui est en train de gérer le monde aujourd'hui?
Justement, tu viens d'aller aux States, enfin, tu viens des States. Et justement, qu'est-ce que tu retires de bien et de pas bien d'être allé dans l'antre de la bête, si je puis dire?
J'aimerais bien qu'on en parle un peu du Venezuela, vu qu'on a l'air le sujet, après on parle de ça. On est retourné jouer deux fois au Venezuela les deux dernières années. C'est sûr que ce qui est en train de se passer là-bas, c'est quelque chose que moi j'estime super intéressant. Il y a une révolution qui est en route, c'est clair. Il y a une révolution qui se fait sans livre, sans dogme, ce qui est plutôt intéressant. Et c'est une révolution que les gens là-bas sont en train d'inventer au jour le jour. Moi, j'ai fait des concerts il y a des années de la mano dans des quartiers de Caracas. On est retourné maintenant. Il y a effectivement des changements et plutôt très positifs. C'est là que moi je suis vraiment ulcéré par rapport à, quand je vois comment on parle du Venezuela, de ce qui se passe au Venezuela dans les grands médias européens. Je trouve ça complètement dégueulasse, quoi. Parce que c'est, je sais pas comment dire, mais moi, mon père est journaliste, on a dans la famille une certaine éthique du journalisme, et la manière dont on parle du Venezuela dans les médias, en règle générale, c'est pas du journalisme, c'est de l'intox. Parce qu'on ne parle que du mauvais côté des choses, on ne parle pas des résultats, on ne parle pas de ce qui se passe, on ne parle pas de la médecine dans les quartiers qui est arrivée, on ne parle pas des travails d'éducation. On ne parle pas d'une chose que j'ai notée moi et que dans tous mes voyages, j'ai vu nulle part ailleurs, c'est une immense confiance dans la jeunesse. C'est-à-dire qu'on délègue énormément dans la jeunesse. Ça, c'est... J'ai rarement vu ça ailleurs, quoi. Et donc voilà. Moi, personnellement, en tant que Manu, je pense que ce qui se passe au Venezuela aujourd'hui, c'est un laboratoire super intéressant d'une autre manière de vivre ensemble, de faire de la politique, si tu veux. Mais quoi qu'il arrive, je continue à dire que j'aime pas le mot. Enfin, il est...
Non, mais merci beaucoup de ta réponse, j'ai arrêté de l'air avant.
Il n'y a pas de problème.
Justement, la question, ouais. C'était, tu reviens des États-Unis, d'Amérique notamment, quel est le sacré, qu'est-ce que tu retires, toi et ton équipe, donc justement de cette excursion, je dirais, dans l'art de la bête.
Ben, on est... Ça fait quand même maintenant, malheureusement, des années que tous les soirs dans les concerts, et pas que dans les concerts, on est très très critique sur le gouvernement américain, et qu'avec le temps, des fois tu fais pas attention et tu commences à faire l'amalgame entre ce qu'est le gouvernement américain et ce que sont les gens qui vivent là-bas. Moi-même, ça m'arrive. Moi, je le vois dans les quartiers un peu partout dans le monde et dans plein d'endroits, il y a un anti-américanisme de plus en plus latent, et la faute est à leur gouvernement. Je veux dire, c'est pas... On ne l'a pas inventé. Et donc, nous, personnellement, on a toujours été, enfin, depuis 3-4 ans maintenant, très très critiques sur les décisions de ce gouvernement. Mais moi, je pense que quand tu critiques quelque chose, c'est important de le connaître bien. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles on est parti là-bas. On aurait pu y aller avant, on aurait pu y aller plus tard, mais moi, je pense que c'était pour moi... Par rapport à tout mon discours, par rapport à le gouvernement, c'était quand même important pour moi de savoir ce que c'est là-bas, en fait. On a fait beaucoup de concerts un peu dans tous les coins. C'est sûr que notre public n'est pas totalement représentatif de ce qu'est le peuple américain. C'est clair que dans nos concerts, c'était, sans exagérer, un 80% de public latino. C'est-à-dire énormément de Mexicains, de toute l'Amérique du Sud était vraiment là. Donc c'est sûr qu'il y a toute une partie des États-Unis, enfin des gens qui vivent aux États-Unis, surtout de langue anglo-saxonne qu'on connaît pas encore beaucoup, mais bon, là, dans nos concerts là-bas, on a sorti les mêmes discours qu'en Europe ou qu'en Amérique latine. À aucun moment, on a senti des gens qui étaient molestos pour ça, qui étaient, que notre discours dérangeait. C'était assez, on faisait assez l'unanimité. Ce qui n'était pas forcément étonnant dans les concerts où l'affiche était que nous. Parce que c'est assez clair que les gens qui viennent nous voir, ils ont... Bon, ça aurait été surprenant qu'ils ne soient pas d'accord avec nous. Mais ce qui est intéressant, c'est dans les festivals. On a des fois joué dans des grands festivals où je pense que ça nous est arrivé de jouer dans des endroits où il y a 50 000 ou 80 000 personnes, et sur ces 80 000 personnes, il y avait peut-être 5 000 qui nous connaissaient. Et là, pareil, la réaction des gens quand on sortait, quand on critiquait leur gouvernement était assez unanime. Enfin, je n'ai pas senti d'animosité. Et donc, jusque-là, tout va bien. Mais après, ça amène la deuxième question. C'est que je leur posais d'une certaine manière, c'était de dire... sur toute une tournée, on a quand même rencontré beaucoup, beaucoup de monde dans les concerts. À chaque fois qu'on parle de ça, vous avez l'air d'être tous d'accord avec moi. Mais alors, pourquoi tous les samedis, devant la Maison Blanche, il y a si peu de gens qui manifestent, d'une certaine manière?
Qu'est-ce que tu leur disais sur scène? Des phrases ou des choses que tu disais, c'était sur quoi?
Oh ben on parlait clairement de surtout de leur méthode de combattre. On ne peut pas combattre la violence avec plus de violence. On ne peut pas combattre la violence avec des Guantanamos. Ça, c'est une politique qui n'amène qu'à la guerre. Enfin, ça n'amènera jamais aucune solution. Si tu combats le radicalisme d'une manière radicale, que ce que tu crées, c'est plus de radicalisme. Et donc, on va nulle part. Ce qu'il faut, à notre avis, c'est un gros travail d'éducation. Il faut du travail pour les gens. Il faut que chaque pays ou région du monde puisse se développer par eux-mêmes. Le colonialisme de grand-papa, c'est fini, mais le colonialisme économique, il existe encore tous les jours. Et c'est le grand problème aujourd'hui. Et plus tu vas dans le monde, et plus tu sens les gens sont de plus en plus radicaux, c'est clair, parce qu'ils ont de plus en plus la rage. Parce qu'il y a des injustices terribles, et cette injustice, le premier sentiment humain que ça développe, c'est la rage. Après, le grand problème, c'est de savoir comment canaliser cette rage. Mais on parlait un peu de ce thème-là, mais surtout de pourquoi il y a autant de gens qui ne sont pas d'accord avec la politique de leur gouvernement, et pourquoi ces gens-là ne se manifestent pas dans la rue. Donc la première chose que tu dis, peut-être qu'ils n'ont pas la culture de manifester, mais c'est faux, ils l'ont eu.
Mais c'est pas la première fois que tu... C'est pas la première fois que tu allais aux États-Unis. Est-ce que tu n'as pas senti quand même une impression qu'il y avait quelque chose qui prenait, qui était en train de se développer? Parce que dans le public, il y avait quand même des gens qui brandissaient des drapeaux Bob Marley, qui te reconnaissaient comme une icône, ou qui voyaient en toi comme une icône.
Je refuse ce poste. Trop lourd à porter.
J'imagine.
Mais... après, il y a tout le phénomène musical, on pourra en parler après. Mais ce qui m'a étonné là-bas, c'est le... J'ai vraiment l'impression qu'il y a beaucoup, beaucoup trop de gens qui n'ont même pas la conscience des dégâts que leur gouvernement génère à l'extérieur du pays. Après, on peut parler de l'intérieur du pays aussi. On a joué à la Nouvelle-Orléans, c'est un sujet intéressant aussi.
Mais j'ai l'impression que le public peut parler aussi beaucoup de l'intérieur du pays. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient dans des situations irrégulières ou qui avaient envie de secouer les choses de l'intérieur.
Il y a le problème de l'immigration qui est... Bon, c'est pas la même chose, mais c'est pas très très loin d'être assez similaire à ce qui se passe en Europe. Mais il y a quand même un manque de... Il y a un manque d'ouverture sur l'extérieur, quelque part. C'est simple, hein, ça veut peut-être rien dire, mais pour moi ça veut dire quelque chose. Tu rentres dans un hôtel aux États-Unis, tu peux même pas ouvrir la fenêtre. C'est con, mais c'est un signe. Après, tu regardes la télé, il n'y a pas une chaîne étrangère. manque de fenêtres sur l'extérieur. Je pense que ce sont des opinions comme ça. C'est des impressions. Hein. Je ne suis pas en train de faire une thèse. Hein, mais c'est des choses qui surprennent. N'importe quel autre pays du monde, tu zappes à la télé, tu vas avoir des chaînes de plein d'autres. Ça ne va pas être reluisant, mais c'est quand même des visions un poil différentes. Là-bas, il n'y en a pas. Il y a des télévisions en espagnol, mais c'est des télévisions faites aux USA. Tu n'as même pas les télévisions mexicaines. Enfin, en règle générale, après, tu peux avoir des satellites, mais en règle générale, la télé basique, tu n'as que des télés américaines. Ça, je pense que c'est... Je sais pas, enfin, moi, ça m'a surpris par rapport à tous les autres pays du monde où je suis allé, où tu peux un peu capter les uns les autres. Là-bas, ça, j'ai, en tout cas, moi, j'ai pas vu. Et je suis un zappeur, hein. Enfin, je suis assez curieux là-dessus. Bon, voilà, après, il y a les... Enfin, il y a quand même au niveau de ce qui est manifesté, on peut pas dire que ce soit très... beaucoup là, quoi. Moi, quand je leur disais comme ça, enfin, quand on parlait comme ça avec des gens, moi, j'ai un passeport français, j'ai un passeport espagnol. On peut pas non plus vanter d'avoir des présidents très reluisants, c'est sûr, mais je donne ma main coupée du sens civique, que ce soit des Français ou des Espagnols, parce qu'il y en avait un président comme Bush, je donne ma main coupée, puis il y aurait au moins 50 000 personnes, ou je sais pas combien, tous les vendredis ou tous les samedis, devant le palais présidentiel. Ça, je crois dans le sens civique quand même des gens, quoi. Et là-bas, je comprends pas pourquoi il n'y a pas ça. C'est une question, je suis un peu revenu sans réponse.
Est-ce que tu as rencontré justement là-bas, dans ce pays, des groupes qui, justement, d'une manière ou d'une autre, militent pour
les
États-Unis d'Amérique différents?
Bien sûr, mais il y a c'est un immense pays. Il y a... Il y a dans tous les concerts, il y avait des dizaines de gens organisés entre eux pour des milliers d'activistes différents. Les sujets ça manque pas. Mais ça se retrouve pas au niveau de la masse, quoi. C'est sûr que dans tous nos concerts, ça a été on a rencontré plein de gens qui essayent de changer les choses. Ce qui est intéressant, moi ce que je trouve intéressant aux États-Unis, c'est que c'est quand même un pays où le monde entier est représenté. Moi c'est ce que j'ai trouvé super intéressant quelque part. C'est-à-dire que t'as des communautés du monde entier qui sont là-bas. Moi le plus grand message que m'a donné ma tournée aux États-Unis, enfin au niveau personnel, c'est qu'un jour il faut que j'aille en Inde. Parce que j'ai rencontré plein d'hindous, j'ai rencontré des Iraniens, j'ai rencontré des Russes, j'ai rencontré des Croates, des Serbes, des Africains, enfin, il y a quand même, c'est quand même une mosaïque du monde entier dans ce pays-là. Il y a ça aussi en Europe, mais pas à ce point-là, t'as vraiment beaucoup, 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 beaucoup de communautés du monde que tu retrouves ou dans les concerts, ou dans la rue, Et ça, à ce niveau-là, c'est quand même un laboratoire humain assez incroyable.
Comment as-tu réagi à l'élection de Nicolas Sarkozy, justement? Quelle est ton opinion sur le coup?
Avec inquiétude. Moi, bon, j'étais à Paris. Et bon, ça a été... C'est toujours un truc qui marque, je sais pas pour les gens, mais enfin moi, le 20h, à chaque fois qu'il y a des élections en France, c'est un truc que tu te rappelles quelque part dans ta vie. Hein. C'est une petite marque, quand même, qui... Mais bon, bah là, celle-là, on l'attendait, c'est sûr. C'est... Maintenant, on va voir ce qui va se passer. Je trouve ça très inquiétant. Moi, j'habite en Espagne depuis longtemps maintenant. On a vécu les années Aznar. Ça n'a pas été facile. qu'on a senti une pression un peu rance, je dirais, je ne sais pas quel est le bon adjectif. Mais, c'est toi qui le dis, mais je ne suis pas vraiment d'accord avec toi. Oui. Mais c'est l'Opus Dei, c'est des vieilles. C'est des méthodes. Enfin, ça n'a pas toujours été facile, même au niveau de la liberté d'expression pour beaucoup d'artistes. Hein. On a tous un peu senti la. On a été énormément à sentir un peu la morsure du pouvoir, à dire fais attention. Ça, on a été des. C'est pas un cas particulier, hein, mais c'est un cas qu'on a été énormément de gens à sentir là-bas. Et c'est vrai que quand il est parti, il y a eu. Enfin, moi personnellement, c'était clair, et je crois que beaucoup de gens, il y a eu un sentiment de soulagement. C'est clair. C'est pas qu'on avait une extrême confiance dans ce qui arrivait derrière, mais quand même, l'impression de revenir à une certaine. J'aime pas le mot, mais une certaine normalité. Et bon, la France, on va voir ce qui va se passer, mais j'ai bien peur qu'ils vont rentrer. Plus qu'à Smart, je comparerais plutôt à des années, ce qui attend la France, et j'ai bien peur que ce soit des années plutôt berlusconiennes, on va dire, dans le style.
Aujourd'hui, en France, le groupe Larmineur est en train d'être attaqué très durement en justice, justement, et c'est vraiment la liberté d'expression de ce groupe qui est mise en question. Comment est-ce que ça t'inspire ?
Mais c'est ce qu'ont vécu les Italiens pendant des années à l'époque de Berlusconi, c'est le contrôle des télés. Donc c'est le contrôle, je parle un peu de la chanson, hein, du cerveau de beaucoup de gens. Et dès que t'es pas dans le mainstream, faut t'attendre à avoir des problèmes, quoi. Ça, l'Italie a quand même vécu une époque très, 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 très difficile à l'époque de Berlusconi. Tout à l'heure, je comparais ce qui va se passer ici, peut-être, par rapport à Aznar, mais je pense qu'il y a plus d'analogie avec ce qu'a vécu l'Italie avec Berlusconi.
Y a-t-il des pays où tu refuses de jouer ? T'as pas envie de jouer du tout ?
Je suis même allé aux États-Unis, donc.
Justement, quand on a parlé de ça ?
Je sais pas. La vérité, je me suis jamais posé la question. Enfin, non, pourquoi un pays refuser de jouer ? Après, c'est les conditions et qui t'invite et comment tu vas te sentir manipulé ou pas manipulé. Mais un pays en lui-même refuser de jouer, non ? Pourquoi ? Enfin, je me suis jamais posé ça comme ça. Il y a tellement de pays où je n'ai pas encore allé jouer. Enfin, j'ai pas eu l'occasion. Même si la vie me prête vie longtemps, j'aurais même pas le temps d'aller dans tous ces pays-là. Enfin, dans tous les pays où j'aimerais jouer. Ça, c'est physiquement pas possible. Et les choix, ben, on les fait un peu au jour le jour, quoi. Si on commençait à planifier, ça serait terrible, parce que tout de suite, on se rendrait compte des pays où on n'irait jamais jouer. Et après, te dire, on va aller là et pas là, c'est des décisions extrêmement difficiles à prendre. Enfin, elles sont trop cruelles comme décisions. C'est pour ça que j'essaie de plus en plus dans ma vie de faire des calendriers à court ou moyen terme, jamais plus de 6 mois. C'est pas facile, mais maintenant j'y suis arrivé, j'ai réussi à peu près me caler comme ça. Et c'est beaucoup plus facile pour moi au niveau des choix. Parce que si tu fais des calendriers très longs, tu commences vraiment à être obligé de faire des choix. Et donc, tout de suite, face à toi, tu vois les projets que tu vas faire, mais surtout, tu vois les projets que tu feras jamais. Et ça, à partir de ce moment-là, le choix de dire ça oui, ça non, c'est terrible. Enfin, moi, j'y arrive pas. C'est un peu...
C'est quoi les critères ?
Ah, il y a 1000 critères, mais avec des calendriers à court terme, le critère devient d'une manière plus instinctive, d'une certaine manière, parce que tu... Déjà, le critère important, c'est que tu vas sur les projets qui, d'une certaine manière, arrivent à un moment que la rencontre entre nous et le projet, d'une certaine manière, coule de source. C'est-à-dire que c'est pas une bataille impensable, c'est-à-dire que même si le projet n'est pas forcément facile, mais que la conjoncture, on va dire, humaine et astrale fait que ça, 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 peut, c'est fait pour bien se passer à ce moment-là. Il y a une conjoncture de temps et d'envie qui se... Enfin, qui concorde, quoi. Et c'est ce que permet le... de prendre des décisions à pas trop trop long terme. Parce que si tu prends la décision de foncer sur un projet, mais dans un calendrier, je te parlerai de, en janvier 2009, en janvier 2009, comment sera le monde? Quelle sera la conjoncture pour que ce projet puisse être mené à bout? Est-ce que les gens seront encore là? Est-ce que ça sera vraiment encore plausible? Est-ce qu'il n'y aura pas juste à côté un projet peut-être beaucoup plus...
Comme celui-ci?
Oui, bah ça c'est un exemple. C'est une chose qui s'est... De venir ici, ça s'est décidé il n'y a pas très très longtemps. Il y avait une envie profonde, mais qui s'est fait sur le mouvement, quoi. C'était possible, c'était pas terriblement compliqué, parce que tout faisait que ça concordait, et donc voilà.
Je suis obligé vis-à-vis de mes amis de dire quels ont été les critères, sincèrement, je reprends mon rôle pour te prendre notre assistance en nos langues et en te parlant, mais c'est le public de ta France.
Bah, le public de Tempo, ça pouvait pas être un critère vu qu'on va le découvrir ce soir. Donc ça, c'est la rencontre, elle se fera ce soir. Le critère, ça a été une rencontre, ça a été une discussion, ça a été un pacte moral, on va dire. C'était celui-là le critère. C'est ce qu'on a parlé tout à l'heure. Oui, c'est difficile à expliquer ces choses-là. Hein. C'est un feeling sur le moment et l'envie de le faire, voilà. Et pendant plusieurs années, c'était pas possible pour nous de le faire pour des raisons d'éloignement, donc de mille choses qui font que ça devient très très compliqué. Et là, cette année, c'était possible. Donc on a vite repris le contact et on s'est dit, écoute, cette année, c'est jouable. On rentre juste à temps, un peu limite, mais... Si on arrive à faire un peu d'effort, on y arrive, quoi.
Est-ce que ça peut annoncer une tournée dans des endroits un peu similaires, c'est-à-dire des endroits plus petits, plus provinciaux entre guillemets?
On n'a pas trop réfléchi à ça. C'est sûr que pour nous de venir jouer dans des festivals comme Tempo Latino, c'est... Pour nous, c'est un échange passionnant. Puis c'est des endroits où on se sent bien, où il y a une vraie relation à tous les étages, au niveau de l'organisation, au niveau du public. Nous, le problème qu'on a, un problème qu'on ne sait pas très bien comment résoudre, c'est dès qu'on s'annonce quelque part, on a un problème de capacité de salle, quoi. On n'a pas le problème qu'ici, on a le problème en Espagne, on a le problème en Italie, on a le problème en Amérique latine. Et ça, c'est un problème que je ne sais pas très très bien comment résoudre. Parce que dès qu'on annonce, tout de suite, il y a beaucoup beaucoup de monde qui veulent nous voir. Ce qui est très positif dans un sens, mais qui pose quand même un certain problème dans un autre sens. Aujourd'hui, pour moi, c'est très triste qu'il y ait des mecs en train de vendre des places à 60 euros. Mais on ne peut pas lutter contre ça. C'est la seule manière de lutter contre ça, c'est de faire des endroits où la capacité est de 50 000, 60 000 personnes, où on pourrait lutter contre le marché noir. Mais dès que tu fais des trucs un peu plus intimes, nous on a ce problème de tous ces gens qui veulent venir nous voir, on n'est pas... Et ça, c'est un problème qui est très délicat pour nous. Donc on le gère à notre manière... dans notre quotidien, notre vie de tous les jours, c'est très très souvent qu'on organise des concerts dans des clubs où on change notre nom, c'est-à-dire qu'on invente un autre nom, on remplit juste le petit club, on fait des clubs de 500 personnes, on fait des bars de 100 personnes, mais ce qu'on peut pas se permettre, c'est d'annoncer. Donc ça crée toujours une relation un peu ambiguë avec le public, parce que quand t'annonces pas, il y a beaucoup de gens qui se plaignent à moi de dire, mais t'as joué à 30 bornes de chez moi, on était même pas au courant. Et donc ils t'en veulent un peu, les gens. Et après, ouais. Si on fait des trucs trop massifs, les gens te disent, Manu, et la proximité, alors... Donc en fait, on se fait un peu engueuler dans les deux rayons. Mais c'est normal. Et donc, on jongle un peu avec ça, quoi. Mais aujourd'hui, par exemple, le problème aujourd'hui, c'est ça, quoi. Il y a des gens qui vont voyager de loin, il n'y aura peut-être plus de place pour eux pour rentrer. Il y a un marché noir qui est triste, quoi. Que des gens profitent de ça. Mais c'est... Alors moi, s'il y a des gens qui ont des solutions pour... enfin, on cherche, quoi. Mais si on annonce, on a toujours tout de suite le problème de... du côté un peu massif, quoi. Et si on n'annonce pas, c'est sûr qu'il y a des gens qui adorent notre musique et qui sont pas au courant, qui le savent le lendemain, en fait. Et donc, en fait, on jongle entre les deux. Entre les deux. Non, puis si on en fait deux, il aurait fallu en faire trois.
Justement, l'album sort en France là, le 3 septembre, c'est évident, le public français attend justement, non seulement Manu Chao, mais tous ensemble. Donc, la forme, c'est pour les Français.
Aujourd'hui même, impossible à dire. C'est même ce que j'ai dit il n'y a pas longtemps, là. Aujourd'hui même, au jour d'aujourd'hui, le pays où je me sens moins prêt à tourner, c'est la France. Parce que j'ai besoin d'une petite semaine de répète pour préparer les chansons en français, quoi. Et ça m'embête de revenir en France et de pas chanter en français. Il y a le petit CD qui s'appelait Sibérie m'était compté, qui est sorti. Il y a énormément de chansons en français là-dedans. On les joue dans les bars. Mais on voudrait les adapter à la scène. On n'a pas eu le temps pour le moment. Et je conçois pas trop de revenir en France avant d'avoir quand même dans le set qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire c'est pas tout chamboulé, mais rajouter un petit 40 minutes de chansons en français, ça m'embêterait de revenir pour une longue tournée en France et de pas chanter en français en France, quoi. Et pour le moment, dans notre set, enfin, vous en rendrez compte ce soir, c'est qu'il n'y en a pratiquement pas, quoi.
Et justement.
Et c'est quand même ça que je voudrais quand même. On n'a pas besoin de très longtemps, hein, mais il faudrait qu'on arrive à se poser un petit peu. C'est qu'une question de temps et de s'organiser un petit peu. Ça ne veut pas dire que ça remet la tournée française au calendrier grec. Mais aujourd'hui même, la vérité, c'est ça. J'ai vraiment envie de revenir ici et de au moins avoir 40 minutes de belles chansons en français, quoi. Moi, j'aime bien les chansons du petit Sibérie m'était compté. Et j'aimerais bien pouvoir les présenter sur scène. On a besoin de 400 jours avec les musiciens pour les mettre en place. Pour le moment, on n'a pas eu le temps de le faire. Donc, c'est pour ça que je dis ça sent déjà trop fort, que c'est le seul pays où je ne me sens pas prêt à tourner. C'est juste qu'on a besoin d'une petite semaine de répète. C'est pas dramatique, on va les trouver très vite. Mais c'est vrai que j'ai cette envie-là, quoi. On a tourné pendant les derniers concerts qu'on a fait en France, que ce soit les tournées de 2001, de 2002, 2003, un petit peu qu'on a joué. On chantait très très peu en français aussi. Et là, j'ai quand même envie de revenir avec certains textes en français qui me tiennent à cœur, quoi. Et justement, tu parlais... C'est pas un problème de gymnase, c'est un problème de temps. Un gymnase, ça ne fait pas de mal non plus. Hein. Et... Allô.
On entend pas là.
Sibérie, moi j'ai. Donc on a sorti ce livre avec Bosniak. Avec Bosniak, c'est une rencontre fabuleuse aussi. Hein. Moi dans ma carrière aujourd'hui, il y a quand même des choses dont je suis extrêmement content. C'est le groupe, c'est Radio Bemba. Il y a un truc dans ce groupe qui est fabuleux. Enfin, je me sens. Enfin, il y a une alchimie qui me remplit vraiment. Il y a le travail avec Bosniak aussi qui n'arrête pas. Pour moi, c'est un honneur de travailler avec lui. C'est un mec immense à tous les étages. Et donc on a fait ce livre qui a pris son temps à être fait. C'était passionnant parce que c'était aussi apprendre un nouveau métier, hein, faire un livre. C'est pas juste écrire des textes et Bosniak faire des dessins. C'est la mise en page, c'est choisir le papier, c'est monter une éditoriale, c'est apprendre un métier d'une certaine manière. Bon, on a encore des arpètes, mais on a appris un petit peu. Et donc là-dedans, il y avait ce petit CD qui a été fait un peu comme ça sur l'instant. Moi, j'ai vraiment l'envie de le, que les gens qu'on puisse le trouver. Pour le moment, il n'y en a plus. Mais je voudrais le revisiter juste un petit peu. On l'a sorti comme ça. Il y a beaucoup de chansons. Je pense qu'il y en a peut-être. C'est un avis, hein, mais je pourrais peut-être le réduire un petit peu. Peut-être faire un choix un peu plus radical sur les chansons. Et remixer certains trucs et rajouter certains petits trucs. Ça, c'est le défaut de tous les musiciens. Hein. Mais...
Il faut faire vite parce que tout le monde demande partout en Italie.
Bon, de toute façon, les gens ils le demandent, mais ils le trouvent. Hein. Sur Internet, il est trouvable. Oui, normalement, c'est la seule solution.
Et pour reparler de la conception de l'album, tu parlais de petites cartes postales, de moments comme ça précis. L'album s'est terminé parce qu'à un moment donné, il a fallu grosso modo le rendre, quoi, parce qu'il pourrait, ah, pourrait y être encore. Et les concerts que tu as donnés en Amérique latine ou en Amérique du Nord, etc., est-ce que ça a eu une influence aussi sur le travail de mix ou autre que tu étais en train de faire? Et dans le même ordre d'idée, tu parlais de l'accueil en France, etc., tu ne savais pas trop comment ça allait se passer, donc est-ce que c'est un moyen aussi ce soir de voir l'accueil que va recevoir tes nouveaux morceaux? Est-ce que c'est pour te rassurer ou autre?
Bah, de toute façon, avant un concert, moi personnellement, je ne suis jamais rassuré, que je sois dans le monde. Il y a toujours...
Là, c'est la sortie d'un nouveau disque, donc il y a un autre enjeu, j'imagine.
Moi, je pense que ça fait des années, même à l'époque de la Mano, hein, on n'a jamais trop associé ce qui était la scène à un disque. Alors que nous, ce soir, ni si on fait une tournée française dans 3 mois, ou dans 4 mois, ou dans 6 mois, peut-être que ça n'aura absolument rien à voir avec le disque. Ça, je suis incapable de le dire pour le moment. On n'a jamais travaillé comme ça, même à l'époque de la Mano. On était toujours un peu en porte-à-faux ou à l'envers de... Pour moi, c'est quand même vraiment deux métiers différents. Je serais incapable de reproduire sur disque sur scène ce que vous avez écouté tout à l'heure. C'est vraiment des chansons faites en studio, faites à droite à gauche dans le monde, mais il n'y a pas le public en face. Tu peux pas. Ça, c'est ma manière à moi. Moi, j'arrive pas à concevoir de ce que tu fais en studio, d'essayer de le présenter sur scène. Pour moi, c'est quand même perdre 90% des possibilités d'une scène. C'est comme une certaine manière d'essayer de jouer live en studio, c'est perdre 90% des possibilités d'un studio. Et parce que jouer live en studio, c'est très bien, mais de toute façon, il manquera toujours le public. Et c'est quand même une partie très 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 importante d'un live. Et donc c'est quand même deux facettes de mon métier et de ma passion que j'envisage d'une manière très 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 différente. Même dans ma manière de m'inspirer, sur scène on privilégie vraiment l'énergie. Après on essaie de pas trop faire de fausses notes, mais l'important c'est l'énergie. Le studio, c'est plus... ça t'apporte plus un côté où t'as le temps de divaguer un peu. Voilà, un petit joint en studio, c'est parfait. Pour monter sur scène, un petit Armagnac, c'est mieux. C'est vraiment deux choses totalement différentes pour moi. J'arrive même pas très difficilement à faire le pont entre les deux, quoi.
Mais l'album n'a pas été fait pour l'Amérique latine ou pour les États-Unis?
Non, il a été fait pour moi. C'est ma thérapie personnelle. Je veux dire, c'est comme ça que je fais mes albums. C'est un acte assez égoïste, en fait. Hein. Moi, si je suis en studio et je fais mes petites maquettes et mes petits trucs, c'est une manière à moi de canaliser ce que j'ai dedans, de canaliser mes joies, mes peurs, ma rage. Mon dégoût de ce qui se passe autour, de tout ça, c'est une thérapie personnelle. Surtout quand je suis en studio, j'essaye surtout d'éviter de penser comment les gens vont l'écouter dehors ou comment ça va être reçu par les uns, par les autres. Parce que c'est parce que là tu deviens fou. Enfin là ça devient difficile. Moi je pourrais pas gérer ça. Moi je pense à l'instant présent, je pense au bien que ça me fait à moi d'être là. Tous mes copains ils peuvent être en boîte ou en train de faire la Java à côté. Moi je suis dans mon petit studio avec 2-3 potes et on fait ça et on se sent bien quoi. Et on fait un truc qui est important pour nous-mêmes, qui est un petit lavage quoi quelque part. Et ça c'est comme ça qu'on fait. Si tu commences à penser comment ça va être reçu dehors, t'es tout de suite tétanisé. Déjà d'une, parce que c'est une chose que je suis très content de ça, quoi. Mon public est tellement divers que de toute façon, quoi que tu fasses, ce sera très difficile de contenter tout le monde. Enfin, si tu penses à ça, tu es obligé de faire des compromis dans ta musique pour te dire, bon, faut que ça plaise à ceux-là, faut que ça plaise aux autres, faut que ça plaise à ces gens-là qui écoutent tous des fois de la musique différente, qui viennent de cultures différentes, qui viennent qui sont très 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 diverses. Et je crois que c'est ça ce que j'aime quand je vois le public dans nos concerts, quoi. C'est que c'est très 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 varié. Donc en studio, c'est très difficile de penser ta musique en pensant
à notre public parce qu'il est.
C'est un vrai arc-en-ciel, quoi.
Comment ça se passe? Comment tu rencontres les musiciens qui vont jouer avec toi sur scène? Comment tu leur proposes des tournées en fonction des disponibilités, en fonction des coups de cœur?
Au niveau, si on parle de scène électrique, c'est-à-dire que l'on fait très la différence entre quand il y a de l'électricité et quand il n'y en a pas, c'est-à-dire ou électrique ou acoustique. Les bistrots, c'est celui qui est là. Ce qui est formidable dans les bistrots, c'est que c'est l'impro permanente, quoi. C'est quand même une des plus belles écoles de musique. Enfin, jouer acoustique, pour nous, c'est très très important. Le groupe est très fort pour ça. Mais qu'on soit là, à partir de là, qu'on soit un, qu'on soit deux, qu'on soit trois, qu'on soit quatre, qu'on soit des fois 20, c'est la magie du moment qui compte, quoi. Et ça s'invente sur le moment, le bistrot. Bon, évidemment, ça s'invente pas sur le moment parce que ça fait des années qu'on est musicien et maintenant on a un certain savoir-faire, on va dire. Il y a 10-15 ans, je voyais une guitare dans un bistrot, moi je suis quelqu'un de timide. Ma première réaction, c'était de me dire, j'espère que personne va me passer la guitare. Maintenant, je vois une guitare dans un bistrot, j'attends mon heure, mais je ronge mon frein, quoi. J'ai envie, je sais quand va être mon moment, je sais ce que je peux faire, je sais ce que je peux pas faire. Mais sauf qu'avec le temps, t'apprends tes limites, t'apprends ce que tu commences à savoir ce que tu sais faire, ce que tu sais pas faire. Et puis c'est quand même le meilleur endroit pour tester une chanson. Sur une scène en électrique, tu peux essayer une nouvelle chanson, mais ça va pas te dire si la chanson est bonne ou pas bonne. Dans un bar, il n'y a pas de pitié. Ta chanson, elle passe ou elle passe pas. C'est quand même le meilleur examen de passage pour une chanson, c'est le bistrot. Et je ne me rappelle plus du début de la question.
Mais... Comment ça se passe? Comment tu appelles les musiciens qui sont autour avec toi, Roy Pachi?
Voilà. Et donc au niveau du groupe électrique, on va dire, bon, il y a un noyau dur, c'est celui qui est ici ce soir. Il y a David à la batterie, il y a Philippe à la percussion, il y a Majid à la guitare, il y a Gambit à la basse, il y a Chuko au son. Ça, c'est vraiment le noyau dur. Il y a Julio au clavier qui a joué des années avec nous, qui est parti faire un projet à lui, qui maintenant revient, parce que le clavier qui était avec nous maintenant est parti faire son projet aussi. Je pense que Radio Bemba, c'est aussi c'est un groupe à géométrie variable, où il y a un noyau dur, mais après, les gens qui rentrent, ben, passent un moment, après ressortent, vont faire leur projet propre. Et c'est comme ça que ça se passe. En ce moment, il est en tournée, il vient de sortir son CD, on a d'ailleurs collaboré dessus, moi et Maudit. Il a des concerts en voiture, voilà. Donc il n'est pas avec nous pour le moment. C'est peut-être pour ça qu'on vient sans cuivre pour le moment. Nous, la place, elle est tenue au chaud et elle est à lui, quoi. C'est le trompettiste du groupe. Pour le moment, il fait autre chose. Nous, l'important, c'est qu'on sait que même le noyau dur, on est tout terrain, quoi. Et qu'on fonctionne. mais c'est pareil, plein de gens qui sont passés à travers le groupe, qui ont apporté des trucs incroyables au groupe et qui maintenant font leur carrière. Il y a le petit Gérard, le petit Percu, c'est les premières grosses tournées qu'il a fait avec nous. On l'a rencontré à Barcelone au local. À l'époque où j'avais appelé Philippe pour jouer dans le groupe, mais lui il pouvait pas parce qu'il jouait dans l'autre groupe. Donc on avait formé d'une certaine manière un petit jeune du quartier, maintenant qui tourne avec la Kinky Beat, qui a monté son groupe, qui tourne un peu partout en Europe. Il y a le cas de BG, qui est maintenant bon, Lyricson, qui a fait son CD, qui tourne aussi. Rien n'est impossible, enfin, c'est nous la porte est ouverte, c'est-à-dire que le show il tourne à 6, mais il peut tourner à 7, à 8, à 9, à 10, c'est juste une histoire de... Et on n'a même pas trop besoin de répéter pour ça, parce que c'est des gens qui sont déjà passés par le groupe, donc ils connaissent connaissent notre système. On a 4-5 signes entre nous pour ouvrir les chansons, pour pouvoir jammer sur scène d'une certaine manière. Nos chansons sont d'une certaine manière très écrites, mais écrites pour pouvoir être jammées tous les soirs. C'est-à-dire qu'on a quelques signes entre nous qui font que c'est juste un coup d'œil entre nous et on peut partir par là, par là, par là. Ça, c'est la force du groupe maintenant, quoi. Et je pense que c'est l'essence d'être musicien, quoi. Personnellement, j'ai mis le temps à en arriver là, mais enfin je commence à... On commence à savoir vraiment gérer ça, quoi. La liste est là, mais on peut tranquillement, à n'importe quel moment du concert, s'éloigner des rails sans se sentir en perdition ou sans se sentir en danger. Au contraire, ça devient un plaisir. Et ça, c'est ce qui nous fait plaisir dans le groupe qu'on a maintenant. On peut vraiment s'amuser à se faire peur sans trop se faire peur. Et tous les gens qui sont jusqu'à aujourd'hui passés dans Radio Bamba, connaissant ces 3-4 petits signes, c'est bon. C'est juste se rafraîchir la mémoire un petit peu dans les loges avant et c'est parti. Il n'y a pas de problème. Mais là, on est vraiment dans la formule la plus réduite. Parce que c'est aussi important pour nous de savoir qu'on peut jouer à 6, quoi. Si le groupe, tu dépends de 12 personnes, après, c'est peut-être qu'on n'aurait pas pu être là ce soir. Il aurait fallu attendre les disponibilités de Roy, les disponibilités de l'un, de l'autre. Et si vraiment le show dépendait d'un groupe de 9, 10 personnes, du jour au lendemain, tu étais beaucoup moins commando, quelque part. Donc à partir de 6, électriquement, on fonctionne. Ça nous est même arrivé de monter sur des grandes scènes à deux, avec Majid. Ça nous arrive aussi. Bon, c'est vraiment quand on s'y attendait pas, que c'est l'envie qui prend. Et on s'est déjà retrouvé devant 50 000 personnes, juste avec Majid, avec un mec qui joue du bongo qu'on a rencontré une demi-heure avant, et on lui a dit. Et on a joué. Et là, en montant sur scène, je me suis dit, là, c'est un peu casse-cou quand même. Et en fait, ça s'est super bien passé, quoi. Mais ça, c'est l'école des bars. C'était au Brésil, à Brasilia. C'était un concert gratuit dehors et beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Il y avait Tikenja Fakoli. En fait, on était venu chanter 2-3 chansons avec lui parce qu'on était dans le coin et finalement, on a fait un show. Enfin, on a fait un set à deux. On était trois avec un jeune de là-bas qui a pris les bongos. Et ça marche aussi, mais ça, c'est l'école des bars. Ça, c'est pour ça que c'est important de pas... C'est des automatismes, c'est des manières de... C'est au coup d'œil. C'est au coup d'œil.
Et pour revenir à ton dernier album, j'ai vu que ça serait sûrement ton dernier album.
Ça a été interprété d'une manière un peu radicale, mais c'est fort probablement mon dernier CD. C'est le support physique dont je parle. Les CD, je sais pas, ça va vite en ce moment-là. Enfin, tout le monde des supports physiques et de comment la musique va arriver du musicien jusqu'au public, c'est en train d'aller à une vitesse tellement vertigineuse que c'est très délicat de savoir pour moi quel sera le support du prochain du prochain petit voyage. On ne sait pas comment ça va se passer. De toute façon, gratuit, pour qui que ce soit, pour celui qui veut, il est gratuit, de toute façon, quoi qu'il arrive. Même cette histoire de la piraterie, moi je pense que j'ai beaucoup entendu parler de ça ces dernières années, que les gens descendent des CD gratuits. Moi, quand j'avais 16 ans, on faisait la même chose. Enfin, je vois pas tellement ce qui a changé. Nous, on faisait des cassettes, mais moi, 95% de ma discographie quand j'étais un ado, c'était des cassettes. C'était du piratage aussi. Donc à ce niveau-là, je ne vois pas très bien. Des fois, j'estime qu'il y a un peu un faux débat là-dessus. Surtout de la part des boîtes de disques. Quoi. Quand ils se... Là, je trouve que ce n'est pas un faux débat, c'est de l'hypocrisie totale. Quand les grandes boîtes de disques se plaignent de la piraterie, faut pas déconner, c'est quand même eux qui vendent à la jeunesse toutes les machines pour pirater les artistes. Et qui sont en train de se faire des couilles en or avec ça. Et on n'a pas. Enfin, le débat, il n'est pas enfocado de la bonne manière. En Espagne, pendant 3 ans, ils parlaient que de ça à la télé. La piraterie, le problème que ça faisait à l'industrie du disque. Alors moi, j'avais été désigné, j'étais même pas là, mais comme le grand défenseur de la piraterie, par les journalistes, c'était comme ça, voilà. Donc les gens parlaient pour moi à la télé, tatatata. Mais et moi là-dessus, j'ai mes positions très arrêtées, quoi. La piraterie à la maison, c'est, on l'a toujours fait, ça a toujours existé. Je pense que c'est un peu dégueulasse de dire que c'est le problème aujourd'hui, parce que ça, dans ce cas-là, ça a toujours été le problème. Voilà, moi je parle de mon cas, je sais qu'on était des millions. Moi, les 3/4 de ma discographie est en cassette.
Le problème, il est pour les petits labels.
Pardon ?
Le problème, il n'est pas pour toi, il est pour les petits
exact.
Labels. Mais c'est ce système que vont devenir les petits labels.
Mais c'est ça le problème. C'est la survie des petits labels et des groupes qui sont pas des gros vendeurs, quoi, qui sont obligés que. De se faire pirater 1000 albums ou pas se faire pirater 1000 albums, ça devient un problème grave. Ça devient un problème grave, enfin un problème économique au niveau du frigidaire. Et ça, c'est très difficile à trouver des solutions. Il faut, de certaine manière, il faut une certaine charte entre les musiciens et le public. C'est-à-dire que le public fasse l'effort d'acheter les CD ou ce qui arrivera plus tard, je ne sais pas comment ça se passera, ou les téléchargements, je ne sais pas comment ça se passera, des groupes qui démarrent et que les groupes fassent l'effort à partir d'un certain seuil de CD vendus, de l'annoncer et de dire bon voilà, à partir de maintenant on estime qu'on a été payé pour notre travail, vous pouvez commencer à pirater nos disques. Il faudrait se mettre d'accord sur un seuil et ça serait une sorte de charte éthique, on va dire, entre les musiciens et le public. C'est un poil utopique, mais il faudrait que ça se passe comme ça. Et pour les, c'est sûr que pour les petits labels, c'est extrêmement difficile. Mais je pense que de toute façon, tout ça est c'est un bouleversement total. En ce moment, on ne sait pas très bien où on va, on ne sait pas très bien ce qui va se passer. La seule bouée de sauvetage qu'ont les musiciens, c'est la scène. Ça, c'est la chose. On a encore cette chance-là, quoi. Qu'on peut se. Puis il n'y a pas que le problème de la musique, hein. Je pense que c'est aussi le problème du cinéma. D'une certaine manière, c'est aussi le problème du journalisme. C'est beaucoup plus ample le problème que le problème des musiciens. Je pense que. Peut-être que dans le cinéma, c'est pareil. Au bout d'un moment, les acteurs, il faut avoir qu'ils retournent vers le théâtre. Si ça devient vraiment une crise, le théâtre, c'est pas piratable. C'est du direct. C'est là et c'est l'instant. Et ça, quelque part, bon, les artistes, c'est un peu notre bouée de sauvetage. Mais Et c'est très difficile, je pense, aujourd'hui, de savoir comment va se diffuser la musique d'ici quelques années. Non, c'est pour ça que je disais que c'est certainement mon dernier CD, mais dans le sens du support physique. Et après, à partir de maintenant, je sais pas comment appeler ça, les œuvres des musiciens, on va dire, si on fait un peu pédant, seront des CD de 12, 15, 16 chansons, ou ça sera titre par titre, c'est très délicat. On sait pas trop comment ça va se passer. Mais ça a ouvert des portes, c'est sûr. Ça a créé des nouveaux problèmes, ça a ouvert des portes aussi.
Tu disais dans le courrier international que maintenant, tu voulais faire un titre après l'autre, en fait, le diffuser à travers ton site internet. Qu'est-ce que ça peut t'apporter dans la création, en fait, dans ta création, de ne pas avoir cette contrainte de l'album ?
La contrainte de l'album, c'est... je sais pas forcément une contrainte, c'est intéressant, mais c'est peut-être le... donner une unité à 16, 17 chansons à la suite... et faire que ce soit un petit voyage cohérent d'une certaine manière, si possible, c'est un peu plus compliqué que si tu donner une unité à 3-4 chansons que tu as enregistrées la même semaine, et donc qui ont une unité par elles-mêmes, et qui quelque part sont... qui forment un couple ou un trio, ou un, je sais pas comment on appelle ça, mais... beaucoup plus cohérent, rien que par le fait de comment tu les as enregistrés, parce que c'est des choses de l'instant, donc qui ont la même un peu la même génétique d'une certaine manière. Enfin, dès que tu commences à faire des CD 16-17 chansons, c'est, dans mon cas des fois c'est des chansons, certaines enregistrées il y a 20 ans, d'autres avant, d'autres après, ça sort d'un disque dur où il y a 30, 40, 50 chansons, et après c'est le petit Lego de les mettre les uns là derrière les autres et de voir comment ça fonctionne, la mettre, l'enlever, ça te plaît plus, t'en mets une autre, et c'est passionnant, hein. Mais si tu le fais sur 2-3 titres, ça peut même prendre beaucoup plus de cohérence, comme ils faisaient il y a 30 ans, non, genre les Beatles, ils faisaient des singles. Et une fois qu'ils avaient sorti une douzaine de titres, après, ils faisaient une compile, en fait, et c'était l'album, hein. Je crois que c'était un peu comme ça à l'époque.
La question, s'il vous plaît, parce que...
Est-ce que tu penses que la réalité des artistes, ou des artistes, ne va pas prendre le pas sur l'artificialité de la télévision et tous ces gens qui vendent des disques à cause de la télé?
La télévision, elle a ses jours comptés aussi. Je vois les gamins là, ils sont plus sur internet que sur la télévision, et je trouve que c'est assez positif. Enfin, après, sur internet, tu peux trouver tout, mais tu peux un peu plus faire ton choix. Et je pense que pour le moment, la télévision, elle a encore une genre de mainmise sur le cerveau de beaucoup d'adolescents, mais je pense que ça va changer, parce que c'est juste une histoire de débit. Le grand problème d'internet, c'est qui c'est qui contrôle le débit à ce niveau là au jour d'aujourd'hui, quand on regarde bien, c'est pas encore l'immense révolution, hein, c'est un peu toujours les mêmes, mais forcément ça va se bousculer. Enfin, je pense que forcément il va y avoir une ouverture là dessus moi je vois plein de jeunes là, ils sont plus en train de mater leur des trucs sur internet, que la télé est souvent de plus en plus éteinte. C'est pas encore massif, mais je pense que ça va arriver.
Pour l'artiste, pour les artistes,
les artistes, je pense que le mot-clé, c'est la scène. C'est la rencontre directe avec le public. Ça, c'est sûr qu'il y a encore... Enfin, il y a cette voie-là, elle est encore là, elle sera là pour longtemps. Donc, comment, dans quel créneau, c'est pas toujours facile. Moi, le rapport direct entre les gens et l'artiste, si tu prends la manière la plus naturelle, ça se passe dans la rue, c'est passer le chapeau. Dans le cas de la ville où j'habite en ce moment, c'est de plus en plus difficile. Il y a une répression terrible et incompréhensible. Les Ramblas, qui étaient il y a des années quand même le plus beau local de répète du monde, parce que non seulement tu répétais devant les gens, mais en plus tu pouvais un peu gagner ta vie. C'est devenu... Enfin, il y a une répression terrible. Enfin, maintenant, on en est arrivé au stade de la confiscation d'instruments. Donc, la relation primaire de l'artiste avec le public qui devrait être la rue, je ne sais pas comment ça se passe ailleurs, mais enfin, en tout cas sur Barcelone, c'est de plus en plus dur. Ça devient totalement surréaliste, on va dire. Oui, enfin, il y a l'hypocrisie des pouvoirs de la mairie qui en même temps vend l'image à tous les touristes d'Europe de la Barcelone bohème. Et en même temps, la bohème de Barcelone, il y a une persécution, mais absolument irrationnelle. C'est ce genre de mystère qu'on a du mal à comprendre. Enfin, moi, à mon époque, quand je jouais dans la rue à Barcelone, on pouvait y rester 2-3 heures, il n'y a pas de problème. Maintenant, les gars, il faut qu'ils jouent un quart d'heure, il faut qu'ils gagnent assez d'argent pour se payer de quoi manger en un quart d'heure, 20 minutes. Sinon, c'est tout de suite, ça devient chaud. Ça joue au chat et à la souris toute la journée. Je sais pas, c'est l'endroit que je connais le mieux parce que j'y habite, mais c'est pas forcément facile. Après, il y a le circuit des salles. Après, il y a les bars. Je sais pas comment ça se passe ailleurs, mais à Barcelone aussi, les trois quarts des bars où les gens pouvaient jouer de la musique ont été interdits. Nous, on n'arrive pas très bien à comprendre pourquoi. Mais enfin, ça, c'est très très récent. Donc faut jouer à l'arrache. Bon, nous on le fait, on continue à jouer dans les bars, mais il faut éviter d'aller dans des bars où le patron c'est ton ami parce que tu le mets dans la merde. Quelque part, parce que c'est lui qui va se prendre l'amende, c'est lui qui va se faire fermer, c'est lui. Enfin, c'est les normes un peu incompréhensibles de l'Europe, hein, des fois qui. Bon, ça y est, Barcelone s'est tombé. Et des fois, il y a des lois qui sont très très absurdes à comprendre. Quand... Et qui sont un peu, quelque part, la mort du petit cheval. Parce que c'est vrai qu'à Barcelone, sur ces dernières années, il y a quand même eu un truc culturel super fort. Il y a plein de gens du monde entier qui venaient faire des choses à Barcelone. Et il y a encore plein de gens qui pensent, qui veulent venir à Barcelone en pensant que créativement, c'est très positif. Moi, je leur dis, oh là là, commence à réfléchir parce que c'est chaud là. C'est plus répressif qu'autre chose.
On parle de cinéma qui s'appelle, j'ai une question en tête, la BO, elle sort. Quand il y a une BO qui doit sortir, le film doit sortir quand ?
Le film de ?
Historical sur
Alors, je sais pas du tout. J'ai vu pas mal de trucs dans. Je voudrais éclaircir quelque chose, je ne suis pas en train de faire la BO de ce film. Hein. J'ai lu, enfin, je pense qu'il y a eu une confusion là. J'ai participé, c'est-à-dire que ma participation au film, je suis allé à Naples rencontrer Diego, c'est là que j'ai écrit la chanson La Vida Tombola. Parce que Emir, il voulait que son idée, c'est que je chante Santa Maradona de la mano à Diego. Il voulait filmer ça. Moi, de participer dans un film où il y a Emir Kusturica et Diego, j'étais assez passionné par l'idée. Je suis fan des deux. Mais je trouvais que Santa Maradona, j'avais envie quand même de passer à autre chose et de proposer autre chose qu'une chanson écrite il y a 15 ans. Quoi. Mais Emir était assez buté là-dessus. Quoi. Moi, j'avais proposé une chanson qui est sur le nouveau disque aussi, qui s'appelle Mala Fama, Mauvaise Réputation. Je crois que ça lui allait pas mal à Diego aussi. Je sais qu'ils l'ont enregistré, enfin, ils nous l'ont filmé un petit bout à Naples, je sais pas s'ils l'utiliseront pas. Mais après, on a écrit La Vida Tombola et on l'a chanté à Diego en Argentine il n'y a pas très longtemps là. Et c'est ce qu'a filmé Emir, quoi. On a chanté dans la rue la chanson avec Majid, de guitare acoustique à Diego, et ça il a filmé. Donc Ma participation à la bande sonore, c'est ça pour le moment. Hein. C'est pas, je m'occupe pas de la BO du film. Enfin, Emir me l'a pas demandé. Mais ça a été bon, la rencontre avec Diego. Il y a eu le film aussi fabuleux avec, enfin la rencontre incroyable avec, avec un réalisateur que j'adore, c'est Fernando León, qui avait fait bon, pas mal de films avant incroyables, mais qui en avait fait un formidable qui s'appelait Lundi au soleil. Je sais pas comment c'était traduit en français, Los lunes al sol. Un film sur le chômage qui était, oui, avec Bardem, qui a, moi j'estime que c'est un film incroyable. Enfin, je conseille à tout le monde d'aller voir. C'est les traductions, après il faut voir, parce qu'il y a vraiment, dans le texte, c'est tellement important que je ne sais pas comment ça a pu être traduit.
En BO,
ouais. En BO. Et donc, Fernando m'a demandé de participer à d'écrire une chanson pour le film qui a sorti il n'y a pas longtemps, qui s'appelle Princesas, qui est un film sur la prostitution. Il y a une chanson dans le disque qui s'appelle Meyaman Kaye, qui a été en fait écrite pour le film, qui est sorti dans le film il y a maintenant 2 ans, je pense, 1 an et demi, 2 ans, qui a fait son petit bonhomme de chemin. Là, cette chanson, c'est peut-être au jour d'aujourd'hui ma préférée sur l'album, dans le sens qu'elle a déjà une vie. En fait, elle a déjà un vécu pour moi. Il y a eu ce film. À travers ce film, il y a eu la rencontre avec un milieu que je connaissais pratiquement pas. C'est le monde de la prostitution. Et j'ai rencontré des gens absolument incroyables. J'ai fait des amitiés incroyables dans un monde dans lequel j'avais vraiment côtoyé de loin dans ma vie, mais que je ne connaissais pas vraiment de l'intérieur. Et ça, c'est quelque part la chanson qui, pour le moment, pour moi, a le plus de... Enfin, qui a déjà fait son petit bonhomme de chemin, quoi. Et ça a été pour moi un bonheur de travailler avec Fernando, avec toutes ses filles et ses garçons. Et au jour d'aujourd'hui, c'est la chanson qui a le plus de... qui a déjà sa petite histoire, quoi.